Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites avant le vote à l'Assemblée nationale demain. Et alors que les manifestations s'étaient relativement bien passées jusqu'ici, on attend 1400 casseurs dans les rues de Paris cet après-midi. Une situation qui n'étonne pas Laurent Berger, le leader de la CFDT. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
On est passé en janvier d'un processus de contestation d'une réforme. Et on commence à monter dans un sentiment de ressentiment, voire de colère dans certaines têtes. Vous savez, vous me parliez du nombre de manifestants. Parfois, quand il y a moins de manifestants dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes.
Rémi Barré, est-ce qu'il y a des risques que ça se passe mal cet après-midi?
Ben, tu l'as dit, hein, les services de renseignement attendent de plusieurs centaines d'éléments radicaux qui peuvent venir tenter de faire dégénérer la manifestation parisienne cet après-midi. Bon, ça, c'est pas nouveau à chaque fois. Depuis, là, c'est la 8e journée de mobilisation. Depuis le début, on nous dit qu'il y a quand même des risques de tension. Et il faut le remarquer, depuis le début du mouvement, à de très rares exceptions, ça s'est toujours déroulé dans le calme. Mais il est vrai que le contexte n'est plus le même. On vote demain à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans la dernière ligne droite. Et on l'entend, Laurent Berger le dit, la détermination qui s'exprime dans la rue est en train de se transformer en colère par le manque de dialogue entre les syndicats et le gouvernement, c'est ce que dit le leader de la CFDT. Il ajoute « Je ne cautionne jamais la violence. Après, peut-être que ce sera une conséquence malheureuse face au mépris auquel nous nous heurtons. » Même son de cloche du côté de la CGT. La Fédération des Bouches-du-Rhône a notamment averti qu'en cas d'utilisation du 49.3 à l'Assemblée, il n'y aurait plus de règles pour personne. Nous rentrerions dans une phase de blocage plus concrète, selon un tout dernier sondage Elab pour BFM TV. 62% des Français souhaitent d'ailleurs que la mobilisation se poursuive, même si la réforme est votée demain à l'Assemblée.
Faut-il craindre une radicalisation du mouvement? Je vous vois sourire et hocher la tête, Perico Légas.
Oui, quand le syndicalisme en est à la méthode Coué, ça veut dire que la bataille est en train de se terminer.
Ça va dépendre de ce qui se passe demain. Hein.
Non, on a un peu de recul. Le pays n'a jamais été bloqué. Le grand soir n'est pas arrivé. Les promesses syndicales d'insurrection, de mobilisation... Il y a eu un mouvement social net, très très net, et une mauvaise appréciation de cette réforme qui est mal emmanchée. Voilà, François Bayrou a dit en privé que c'était pas... Il faut réformer les retraites, mais le faire en période d'inflation avec perte du pouvoir d'achat dans un contexte...
6,3 l'inflation
c'était
sur
pas
un
le, c'était pas le mauvais, c'était pas le bon moment, mais s'il faut à un moment donné repenser la retraite, et peut-être pas comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de la fracture sociale, elle s'est pas ouverte davantage. Le mécontentement est là, mais le mouvement syndical n'a pas obtenu, ni les partis de gauche, ils n'ont pas obtenu, c'est clair aujourd'hui, la mobilisation qu'ils étaient en droit d'attendre. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a une forme de lassitude. Le mouvement social, il a eu lieu contre, en général, la politique du gouvernement. Il y a un rejet de la Macronie et du macronisme. Mais enfin, sur ce cas-là, concrètement, on peut dire aujourd'hui que c'est un échec. Alors, la loi sera votée ou pas demain, peut-être. Le processus va continuer, 49-3. L'histoire n'est pas terminée.
L'histoire n'est pas terminée. S'il y a un vote, bon, bah voilà.
Non, mais on voit bien que ça s'étiole. Voilà. Les grèves sont en train de tout simplement
s'étioler
se tasser.
Parce que les gens attendent la décision.
Non. Attendez. Je vais vous dire.
S'il y a 49-3, vous verrez ce qui va
se
passer.
Non, ce n'est pas un enjeu aussi mobilisateur que ça. C'est un vrai sujet, la retraite, hein. 62-64 ans. Mais si vraiment c'était dans les proportions que nous ont annoncé les syndicats et les partis de gauche, si vraiment c'était quelque chose de révoltant, de dramatique, la mobilisation aurait été bien plus suivie. Finalement, l'effet gilet jaune a été beaucoup plus massif, beaucoup plus suivi, beaucoup plus enraciné. Là, il y a un grand mouvement d'humeur. Voilà. Et puis, ça va se tasser tranquillement parce qu'il n'y a pas d'enjeu ensuite.
Vous n'êtes pas d'accord, Robert Sebag, avec ce que vous venez de dire?
Non, parce que, d'abord, le mot radicalisation, il ne s'applique pas simplement à la manifestation d'aujourd'hui. Il y aura peut-être, effectivement, il y aura plus de Black Bloc, c'est la dernière, il y a le vote demain. Je pense qu'il faut voir, et c'est effectivement à long terme. Alors, bien sûr, s'il y a le 49-3, moi, je pense que ça peut entraîner une radicalisation. Parce qu'on est passé, si vous voulez, d'un compromis uniquement politique alors que le compromis, il est social. Oui. Deuxièmement, si vous voulez, je pense que quand vous avez une unité syndicale, j'ai entendu ce matin Laurent Berger, et c'est effectivement, si vous voulez, l'humiliation n'est pas acceptable. Et je pense, si vous voulez, que le fait que le président Macron n'ait pas voulu recevoir les gens, quelque part, ils ont été humiliés.
Donc ça va laisser. C'était Elisabeth Blanc.
Peut-être, mais elle ne les a pas reçus. Elle est envoyée sur Dussopt.
Donc si, elle les a reçus au départ.
Oui, mais pas une fois que le mouvement, pas une fois que le mouvement était parti. Et si vous voulez, cette notion de ressentiment me fait peur de la suite. Est-ce qu'on pourra réformer ? Qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas ? Est-ce que les syndicats pourront s'asseoir à la table du gouvernement alors qu'ils auront pris une claque ? Ils auront pris une claque quelque part. Donc le futur me fait un petit peu peur. Vous appelez ça radicalisation ou pas ? Simplement, c'est pas à négliger.
Si ça casse, c'est une radicalisation.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? On parle de loi travail. Il peut pas faire une loi travail sans les délégations syndicales qui vont dire, attendez, vous nous avez pas reçus au moment de la réforme des retraites. Et là, vous voulez avoir notre caution. Donc, je suis un tout petit peu inquiet sur attention à l'humiliation et au ressenti que vont avoir les gens, quel que soit le vote.
Mais t'es inquiet par la forme de radicalisation qu'il pourrait y avoir ou t'es inquiet par la suite s'il y a une absence, si la loi passe effectivement, si elle est votée à l'Assemblée?
49
fois démocratique.
Oui,
non, mais soit.
Mais
ce que dit Robert, c'est est-ce qu'il y a une question de radicalisation ou alors, moi j'entends comme ça, de difficulté a posteriori à négocier avec les corps intermédiaires. Les syndicats qui n'ont pas été reçus par Elisabeth Borne, les syndicats qui n'ont
ils
pas
ont été reçus
au tout début, mais au moment de la modification du vote des amendements à l'Assemblée et au Sénat, il n'y a plus d'entente et négociation entre les corps intermédiaires, les syndicats et le gouvernement.
Mais qu'elles leur disent. Reste tombé sur mes positions.
Simplement, oui, justement, c'est pour ça qu'il y a une absence de dialogue. Ce qui peut être fait ensuite, effectivement, si une loi travail qui est voté a posteriori, c'est la difficulté qu'il va avoir à entendre, à se mettre d'accord sur une table de négociation entre les syndicats et le gouvernement. Après, sur la question de la radicalisation, de ce que je vois sur le terrain, alors vous me direz que c'est qu'à mon échelle, donc c'est pas significatif, mais j'ai aussi le sentiment, et j'ai pas parlé au nom de tous les Français, qu'il y a une lassitude. Il faut quand même se rappeler qu'on a enchaîné...
Une lassitude par rapport à la réforme ou pas?
Lassitude par rapport à l'ensemble des mouvements qu'il y a pu avoir depuis maintenant au moins 5 ans, voire
c'est
plus.
C'est usant.
Il y a eu des Gilets jaunes qui avaient des revendications qui... Alors, qu'on soutienne ou non. Mais en tout cas, ils avaient des revendications, ils n'ont pas été écoutés. Vous avez
ils
la convention.
Ils ont été écoutés et on a fini plusieurs milliards.
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Hein. Admettons peut-être. Mais en tout cas, il y a eu une action sociale qui n'a pas porté, effectivement, par la suite des effets efficaces et significatifs. Il y a eu la convention citoyenne sur le climat qui a émis des propositions qui n'ont pas été écoutées. Vous avez eu le Covid, vous avez eu les confinements, vous avez eu tout plein de choses, plein de débats qui a pu avoir une espèce de dislocation entre les citoyens et le gouvernement qui a imposé, alors à raison, hein, j'aurais pas ça en cause, mais qui a imposé des mesures sanitaires, qui a imposé le vaccin, qui a imposé des restrictions, sans forcément que le peuple, en tout cas les citoyens, aient envie ou l'acceptent. Il y a eu beaucoup de critiques. Je dis pas que j'ai d'accord, mais il y a eu beaucoup de critiques. Et aujourd'hui, vous avez une réforme qui est rejetée par 2 Français sur 3. Vous avez une réforme qui est refusée par les syndicats. Vous avez une réforme qui est refusée par la majorité des Français et le gouvernement qui passe outre. Et Emmanuel Macron qui est en off.
Il n'y a jamais une réforme des retraites qui a été plébiscitée par les Français. Ça, c'est pas possible.
Mais il y a aussi eu dans l'histoire récente des projets de réforme au-delà de la retraite qui ont été retirés après la colère du peuple. Je pense notamment au CPE.
C'est pas pareil.
Le fait est que c'est une réforme importante qu'il faudra faire d'une façon ou d'une autre. L'exécutif a grillé une carte. Il va falloir renégocier dans de mauvaises conditions. Je pense que tout le monde sort perdant de cette réforme. Le gouvernement ne passe pas et cette réforme n'est pas populaire. Et en même temps, il y a eu un échec du mouvement syndical.
Et donc tout le monde sera affaibli. Et le risque serait effectivement. Et c'est mis en avant par le sociologue Jean
Dans les urnes. Ça se réglera dans les urnes.
C'est qu'on amène sur un plateau d'argent le RN. Et le RN en 2027 prenne le pouvoir.
C'est ce que disent les syndicats parce que c'est aussi un levier.
Oui, mais de la part aussi du gouvernement, c'est aussi une stratégie politique.
On est avec Benjamin qui nous appelle de Saint-Geniès de Malgoire. Je ne sais pas si je prononce bien, Benjamin. Bonjour.
C'est ça. Bonjour à tous.
Ah bah super, Benjamin qui est chauffeur-livreur. Benjamin, est-ce que vous craignez, vous, une radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites ?
Des radicalisations, dès qu'il y a eu des réformes des retraites ou autres réformes du travail, tout ça, il y en a toujours eu. Ça s'est toujours fini comme ça. Donc ça arrivera comme ça. Maintenant, on n'appelle pas à la mobilisation forte et violente, mais ce qu'il faut que le gouvernement y prenne conscience, c'est que petit à petit, il écœure et il dégoûte de plus en plus de Français qui travaillent, qui veulent avancer dans la vie, mais qui n'y arrivent plus. Cette réforme, elle tombe au moment où on a donné pour le Covid, on a donné pour d'autres choses, il n'y a plus de pouvoir d'achat. À l'heure d'aujourd'hui, on va faire les courses, pour une famille de 4 enfants, enfin de 4 personnes avec 2 enfants, on est passé de à peu près 600-700 € à 900 000 euros pour manger. Donc quand on nous emmène à nous dire, bah, au lieu de travailler, parce que c'est pareil, il faut tout prendre, hein. Il y en a, ils peuvent travailler plus longtemps, c'est pas le problème. Il y en a d'autres, ils pourront pas. Donc c'est complètement injuste et elle tombe au mauvais moment. Alors ok, le président, il avait dit je la ferai, pas de problème, mais le président, il est élu par des Français, certains Français, il n'est pas élu par tous les Français.
Oui, mais là, en l'occurrence, c'est la majorité.
Ouais, non, absolument pas.
Si. Non, mais au deuxième tour, la majorité de ceux qui ont voté.
Ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour n'ont pas voté pour la réforme des retraites.
Non, mais peut-être. Enfin, là, à ce moment-là.
C'était pour faire un barrage.
Mais oui, mais ils ont voté quand même.
Oui, mais c'est l'excuse de dire.
Mais oui, mais non, personne te force.
Je ne dis pas le contraire, mais l'argument de dire il a été élu avec son programme.
Ok, Benjamin, allez-y, Benjamin.
Estelle, faisons un calcul. On prend le taux d'abstention, le nombre d'abstentions, plus le nombre de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, et vous verrez qu'il n'y a pas une majorité pour Emmanuel Macron.
Oui, mais
on est
en fait,
très loin de la majorité.
Je suis d'accord avec vous, Benjamin, mais en même temps, l'abstention, je suis désolée, quand les gens ne se déplacent pas pour aller voter, derrière, ils peuvent pas dire qu'il n'y a pas de majorité. C'est
si
pas possible.
Que le gouvernement le droit de voter. Audible, au bout d'un moment, il faut écouter le peuple. Le peuple veut. Il y a différentes choses qui ont été demandées avant. Que l'abstention elle soit prise en compte, que le vote blanc soit pris en compte. Pourquoi au bout d'un moment les politiciens ils font pas en sorte
on est sur un autre sujet, Benjamin. Non, mais
on n'est pas du tout sur un autre sujet. On est sur le même. C'est que le gouvernement ne veut pas écouter les revendications du peuple.
Ça, j'entends, mais Benjamin.
Les chiffres. 8 personnes sur 10 ne veulent pas de la réforme.
Mais d'accord, mais on ne gouverne pas. En fait, je veux dire, le président de la République, il est pas là pour gouverner selon les sondages. Je suis désolée. Même si c'est que ça vous plaise ou non. Parce que alors, sinon, il suffit de quoi? On fait un sondage et puis on fait une loi. Dans ces cas-là, je rappelle souvent ce sondage et parce que Rémi l'a sorti assez souvent. Il y a 52% des Français qui sont favorables à la peine de mort. Qu'est-ce qu'on fait? On la remet. On peut pas gouverner avec des sondages. Malheureusement, peut-être, Benjamin, mais ça, c'est un fait. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit, Benjamin? Vous êtes résigné ou au contraire, vous êtes révolté?
Moi, je suis complètement résigné, mais depuis bien longtemps. Hein.
D'accord.
Moi, la retraite, personnellement, j'y pense absolument pas. Et quand bien même j'arriverai à un âge qui me permettrait de toucher la retraite, on va toucher quoi?
Oui, certainement pas grand-chose. Avec quel âge, vous, Benjamin?
Moi, j'ai 38 ans.
Ouais, donc vous en verrez d'autres.
À la base, j'appelais par rapport à la remarque qui a été faite ce matin dans Apolline. Et par Laurent Berger, où les gens qui ont fait un contrat par alternance avant 2014, ça ne va pas être compté.
Oui. Non, mais bien sûr, mais il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette loi.
J'ai fait 2 ans d'alternance en cuisine. Je veux dire, pendant 2 ans, j'étais pas assis sur un bureau, derrière un bureau.
Hein. Oui, mais bien sûr, Benjamin. Alors après, il y a aussi d'autres métiers pénibles derrière un bureau. Vous avez une pénibilité psychologique également, mais qui n'est pas la même que la vôtre, bien sûr, qui est chauffeur-livreur. Merci en tout cas, Benjamin, d'avoir été avec nous. Il y a un truc intéressant dans ce que dit Benjamin, c'est que finalement, le Covid aussi, on s'est mobilisé aussi quelque part pour les personnes les plus âgées, pour les retraités. Là, on se mobilise aussi pour ne pas payer, finalement plus, c'est-à-dire en fait, je veux dire, pas travailler plus. Mais à chaque fois, c'est toujours pour les retraités, aussi pour les retraités actuels, etc. Non, mais il y a quand même une constante, Péricolias.
Il y a un problème. Les retraités actuels se sont gavés.
On travaille à la Cour des comptes pour les retraités.
Ils se sont gavés. Évidemment qu'ils sont pour cette réforme qui préserve leur intérêt.
Ils ont cotisé aussi.
Ils ont cotisé moins que nous.
Et après eux, le déluge. Alors effectivement, ils ont cotisé, il y avait plus d'emplois. C'était une autre vie. Là, l'avenir, effectivement. Mais bon, le fait d'intégrer la retraite, l'âge de la retraite, quand on est jeune, par rapport à son avenir, et de quantifier la valeur travail par rapport au temps. Et quand j'entends le thème, ils vont nous prendre 2 ans de notre vie. Et j'ai envie de dire, camarade, réjouis-toi d'avoir 2 ans de travail en plus. J'en suis là, parce que je ne sais pas s'il y aura du travail.
Oui, après, comme le dit Benjamin, c'est un travail plutôt sympa.
Je suis pour la formule italienne, tu sais, 100. Tant d'annuités doit correspondre à ton âge. Donc, moi, je suis pour de 52 à 70. Je suis qu'on puisse à partir de 52 et 70, ceux qui veulent rester.
Je suis d'accord. Voilà. La retraite à la carte.
Oui, mais à la carte, en fonction de ce que tu as cotisé.
Ce qui est assez exceptionnel, c'est que, c'est vrai en plus. En plus, la réforme basée sur l'âge pivot n'était pas celle qui était au départ.
C'est une erreur technique.
C'était une réforme par
point. Non, je trouve ça même absurde.
En 2017, puisqu'on parle d'élection, il a été élu en 2017 sur la retraite à point, si on veut comptabiliser. Ensuite, il dit 65. Qui descend à 64, on aura peut-être un jour 63, je ne sais pas comment ça va finir, mais l'âge pivot est une obsession qui ne correspond pas à la demande et aux besoins du pays sur l'enjeu de la retraite.
Mais pourquoi c'était un échec en 2017, la première réforme? Parce que M. Édouard Philippe, qui était Premier ministre, il a sorti l'âge, alors que dans la retraite à poids, il n'y avait pas d'âge pivot.
La vieille droite.
Il a quelque part tuer cette réforme à point. Alors elle est passée avec le 49-3, puis il y a eu la Covid, et tout s'est arrêté.
Finalement, Retailleau a validé la réforme Édouard Philippe. Les LR ont le dernier mot, et c'est la réforme des LR, finalement. C'est ça. C'est extraordinaire.
C'est assez incroyable. Ouais. On est avec Leïla, qui nous appelle de Gondreville, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Leïla.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Alors, Lorraine, bonjour.
Allez-y Leïla, vous êtes aide-soignante. Hein.
Oui, je suis aide-soignante, c'est ça, absolument. Donc moi, effectivement, je pense que on frôle la radicalisation, tout simplement parce que le peuple est en colère.
Une frustration.
Parce qu'il n'est pas du tout écouté. C'est vraiment un sentiment. Enfin, moi, je suis partagée entre la colère et la résignation.
Mais comme beaucoup de Français.
Voilà, exactement. Alors oui, on parle toujours de Macron a été élu avec une majorité. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. On a voté quand même contre, hein, je le rappelle, Marine Le Pen, aussi, pour ceux qui ont voté Macron.
Il y avait un premier tour quand même, on avait choix.
On oublie la législative, il a perdu les élections législatives. C'est clair et net, il est majoritaire en relatif, mais il a perdu les élections législatives.
Oui, ça oui.
Voilà, c'est ça. Et malheureusement, il avait prévenu qu'il allait faire cette réforme. Simplement, je pense qu'avec toutes les concessions qu'il a faites jusqu'à présent pour faire plaisir aux uns et aux autres, cette réforme n'a plus vraiment lieu d'être parce que de toute façon le déficit, il sera là quand même. Et puis ça veut dire que le prochain président va nous répondre encore une nouvelle réforme. C'est fort probable.
Mais ça va pas tarder à prévoir en 2030.
Voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'est un petit peu pénible. Au lieu de la retirer pour la retravailler et reproposer quelque chose d'un peu plus acceptable. Là, c'est trop tard.
C'est un énorme gâchis.
Il y a des gens qui ont perdu des jours et des jours de salaire pour manifester. C'est malheureux, surtout dans ces conditions actuelles qu'on connaît tous. C'est vraiment, moi, je suis dégoûtée. Parce qu'on n'est pas, entendu encore une fois. Et quand il dit la porte est ouverte au syndicat, alors moi, je suis pas pro-syndicat du tout.
La porte est ouverte, mais ils n'ont pas le code pour rentrer, manifestement, parce que.
Voilà.
En tout cas, il veut pas les rencontrer. Merci beaucoup, en tout cas, Leïla, d'avoir été avec nous au 32-16. Quand même, Perico, on voit que là, vu le mouvement de grogne qu'il y a en France, le recours au 49-3, il est impossible pour le gouvernement. C'est pas possible
alors,
de passer en force.
Je crois savoir qu'il y a un débat. La Premier ministre et le gouvernement voudraient le 49-3 pour être sûr qu'elle passe. Le président de la République, j'allais dire, qui est plus subtil, préfère prendre le risque. Soit la loi est votée et elle sera votée, ça sera là la République, même mal votée, et puis ça sera de toute manière bancale.
Mais du moment qu'elle est votée, non, il y en a une voix
cette
après,
réforme
elle est
votée,
voilà.
Cette réforme est morte, elle sera appliquée, elle est bancale. Soit ils perdent, et à ce moment-là, il peut dire mais je suis respectueux des institutions, l'Assemblée nationale a refusé cette loi, je change le gouvernement, Madame Borne démissionne, et là, il a la porte
ouverte. Lui aussi démissionner, hein.
Non.
En prenant ça comme un
non, il a pris le recul, justement. Comme il a vu que j'étais pas gagné.
C'est un remaniement.
Pas un remaniement.
Non, une dissolution.
N'utilisons pas le mot remaniement quand il y a changement de Premier ministre. Ouais. Remaniement, c'est le gouvernement reste avec deux, trois ministres qui changent. Ouais. Là, le gouvernement tombe. C'est-à-dire, le président de la République renvoie le gouvernement. Il entend l'Assemblée nationale. Vous avez pas voulu de cette voie. Donc, Madame Borne, je la démissionne. Je lui demande de démissionner. Et il nomme un nouveau Premier ministre.
Qui aura mission.
Hein? Et avec une politique.
Alors, s'il dissout, il est.
La logique, c'est
il y a une projection qui a été faite. S'il y a une dissolution, tout le monde perd. Renaissance, NUPES, les LR s'effondrent. Et le RN prend montrer à 180 ou 190 sièges. Deviendrait le premier groupe de l'Assemblée nationale. C'est hors de question comme hypothèse. Voilà. Ou un référendum. Il se fait laminer. Donc le mieux, c'est de dire l'Assemblée nationale, voyez, je suis respectueux des institutions. J'ai perdu, je change de gouvernement et je demande au nouveau gouvernement Premier ministre de renégocier une loi, une réforme de la retraite. C'est une porte de sortie assez honorable.
Alors justement, Rémi, on a un sondage qui vient de tomber sur les projections en cas de dissolution de l'Assemblée. Ça ferait quoi?
Ça ferait les intentions de vote pour des élections législatives anticipées en cas de dissolution de l'Assemblée. Donc c'est un sondage Harris Interactive. La NUPES obtiendrait 24% des voix, le Rassemblement National 22%. Les Républicains 10%, la gauche hors NUPES 6% et la majorité présidentielle 24%.
Et ben voilà, mais ensuite en nombre de sièges avec l'uninominal à deux tours.
Mais 24% c'est le même score que la NUPES.
Mais ça ouais. veut dire qu'on ouais. va avoir ah encore, oui, voilà. il n'y ah aura bah, pas de majorité, là, majorité relative une fois de plus.
Alors là, bah, ça fait 24
plus relative encore.
24 la NUPES et 22 le RN.
Ça va être simple à gouverner. Ça serait,
ouais, ce serait pas.
Ouais, ça va être, ouais. ça risque d'être.
Il faut savoir quand même Estelle, justement, très rapidement, c'est que LR, il a plutôt envie. Du 49-3. Parce que là, ils ne seront pas identifiés. Et ils ont très, très peur dans leur circonscription, puisque s'ils votent, il y aura leur nom. Alors, chacun, chaque électeur.
Il reste une option. C'est la motion référendaire.
Exactement.
C'est-à-dire qu'opposition, qui est majoritaire, vote. Non, elle est quasiment prête.
Oui, elle
est à l'étude, là. Et c'est Charles de Courson qui l'amène. Et si elle est votée, la loi est abandonnée et on passe au référendum. C'est une autre histoire.
Non, c'est une motion de censure.
Non.
De Courson, c'est pas un truc référendaire.
Bon, bref, on arrête là. On en reparlera demain, parce que alors demain, ça va être une grosse journée. Effectivement, puisqu'on saura ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Et si ça se trouve, il y aura convocation d'un Conseil des ministres demain matin. Et on saura dans ces cas-là que c'est le 49-3. On attend demain avec impatience. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Craignez-vous une radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites, Rémi ?
Non, pour 59% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ouais, donc c'est quand même une grosse majorité. Dans un instant, on va parler d'une nouveauté dans les supermarchés. Désormais, vous pouvez trouver des emballages de poissons ou de viande avec des antivols pour éviter justement que des gens volent la viande et le poisson. Est-ce que vous trouvez ça logique ou choquant ? On attend vos commentaires au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.